France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des tentes sur les berges de la Seine à Paris pour loger, entre guillemets, les sans-abri. Des organisations non gouvernementales d'aide aux sans-logis. Un homme qui encourageait les squatters, de l'anglais to squat, s'accroupir, à occuper des immeubles scandaleusement vides. Mais encore quelques jours et ces squatters seraient expulsés. Pourquoi ? Parce que c'est la loi. Alors, parlons de réquisition, d'une politique de logement, de l'urgence du logement digne de ce nom. Le sujet n'est pas neuf. Le 14 novembre 1955, sur Paris Inter, Clara Candiani, la journaliste créatrice de l'émission « Les Français donnent aux Français », donnait la parole à celles et ceux qui avaient bénéficié, quelque temps, de l'insurrection de bonté, un feu de paille.
Dans la série « Documents », la radiodiffusion Télévision Française présente « Un toit pour tout le monde », une émission de Clara Candiani.
Ciel de Paris, après la rage... Après
jolie cette chanson, n'est-ce pas ? Pendant longtemps, très longtemps, les quais, la Seine, le vieux Paris, les rues étroites, les maisons classées historiques ont fait partie pour moi d'un merveilleux bagage poétique et pittoresque. C'étaient les ombres qui font mieux ressortir la magie de la ville-lumière. Oui, oui. Et puis tout cela, eh bien tout cela disparut d'un seul coup, un soir d'hiver 1954, où j'ai suivi l'abbé Pierre dans ses pérégrinations nocturnes. Un soir où j'ai vu la misère, le désespoir, la résignation des humains qui vivent dans ces vieilles maisons, qui vivent sur ces berges de la Seine. Je sais que parler maintenant de taudis et des sans-logis est devenu un lieu commun. Nul aujourd'hui n'ignore plus que le taudis entraîne avec lui comme conséquence directe toute la démoralisation d'un pays. Révolte, alcoolisme, tuberculose, folie, avortement, abandon d'enfants, délinquants juvéniles, dissociation familiale, naissent la plupart du temps du taudis. Tout le monde sait cela, bien sûr. Mais un peu comme l'on sait que la peste et le choléra existent quelque part dans le monde et qu'on n'en est pas atteint soi-même. Un très haut fonctionnaire de la reconstruction qui a étudié de près ce fléau et qui s'efforce de remuer un peu l'apathie administrative de ceux qui, confortablement installés dans des bureaux ultramodernes, accumulent sans hâte les sacro-saints règlements, me disait récemment. Il y a ce que tout le monde sait, et il y a aussi ce que personne n'ose dire. Les familles tarées à jamais à cause du taudis, les haines, les incestes devenus courants dans les chambres où père, mère, enfants vivent ensemble dans une promiscuité digne des premiers âges, les frères et sœurs qui grandissent côte à côte dans le même grabat. Cela, c'est une partie de ce que l'on ne sait pas et qu'il faut avoir le courage de dire pour y remédier. Écoutez par exemple ces quelques chiffres sur la salubrité, si on peut dire cela, salubrité, sur la salubrité à Paris.
17% des logements de Paris ont une salle d'eau. Dans le 3e arrondissement, 44% n'ont même pas l'eau à domicile. Dans l'îlot 11 que l'on vient de détruire, la mortalité par tuberculose était de 0,80 par 1000 habitants, alors que la moyenne générale à Paris est de 0,49 pour le même chiffre d'habitants.
Ce que je vais vous apporter aujourd'hui, ce sont quelques documents humains. D'abord, comment les gens vivent. Ensuite, comment et avec qui ils luttent pour ne plus vivre ainsi. Trois stades dans cette lutte, le squattage, la réquisition, le relogement parisien. Voici d'abord des squatters. Vous connaissez l'origine de ce mot, to squat, s'accroupir. Le squatter est celui qui s'accroupit avec l'intention de ne pas se relever. L'origine du mot est du reste française, s'escatir ou s'aplatir. Voici d'abord un élément de reportage enregistré par moi, Faubourg Saint-Antoine, chez des squatters. Imaginez un escalier sombre, des murs lépreux, pas d'eau, pas de gaz, une installation électrique de fortune. Pendant des années, cet immense appartement à usage commercial a été vide. Les grandes fenêtres n'étaient jamais ouvertes. Aujourd'hui, il y a des habitants qui sont heureux. Oh, heureux, pas pour longtemps. Encore quelques jours, ils seront expulsés. leur pérégrination sans fin recommencera. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la loi. Qu'ils sont des clochards, des vanupiaux? Non, pas du tout. Tous, ils gagnent leur vie, mais insuffisamment pour avoir droit à un toit. Telle cette femme de couleur que j'ai trouvée entourée de ses 5 fils, si digne, si courageuse, et souriant d'un pauvre sourire résigné en me disant ce qu'elle gagne.
Vous avez des enfants?
Oui, j'ai 5 enfants.
Vos plus grands garçons ont quel âge?
Il a 17 ans.
Il travaille?
Il est à l'école.
Et les plus petits, quel âge?
Ils sont tous à l'école, 14 ans, 12 ans, 10 ans et 2 ans et demi.
Vous êtes toute seule pour les élever?
Toute seule pour les élever.
Qu'est-ce que vous faites?
Je fais de la confection à domicile.
Et combien gagnez-vous à peu près? Je m'excuse 15... d'être indiscrète, mais je suis obligée.
Oh, pas de mal, madame. Vous êtes obligée.
Oui.
Ça me fait 15 000 par mois.
Combien?
15 000.
15 000 francs?
Oui.
Avec la confection, vous ne faites pas davantage?
Non, avec les gosses, on ne peut pas faire davantage.
Alors, vous vivez avec les allocations familiales, est-ce que vous gagnez?
Les allocations familiales et ce que je gagne.
Et où est-ce que vous couchiez avant d'arriver dans cette maison?
Eh bien, on couchait dans un lit à 3, à l'hôtel, et puis on mettait des lits dans la petite pièce. On s'arrangeait comme ça.
Vous payez combien dans cet hôtel?
Dans cet hôtel, je payais à l'été 6 280, et à l'hiver, ça me faisait 9 000.
Pour vivre à 5 dans une pièce?
Oui, à 6 dans une pièce, oui. Une petite pièce mesurant 2 mètres.
Et votre hôtelier n'a pas été arrêté pour vol?
Non, pas du tout.
Il devrait. Et vous, madame?
Moi, je travaille à domicile aussi.
Qu'est-ce que vous faites?
Je fais de la confection pour poupées.
Et vous, vous faites combien à peu près?
Alors moi, je ne fais pas beaucoup, je fais que 5 000 francs par mois.
Pas plus?
Non, pas plus.
Votre mari gagne sa vie?
Mon mari gagne 45 000 par mois.
Vous avez des enfants?
J'ai une petite fille de 22 mois.
Où habitiez-vous avant d'arriver ici?
J'étais à l'hôtel et je payais 7 000 francs l'été et 9 000 francs l'hiver, avec le chauffage.
Merci, madame. Quittons les squatters et allons maintenant au château des Ternes, demeure qui fut jadis somptueuse au temps où elle fut offerte par Louis XV à la du Barry. Abandonnée depuis le début du siècle, habitée sporadiquement par des œuvres, vous imaginez l'état de cette ruine vouée depuis des années au pic des démolisseurs. Et pourtant, des gens sont aujourd'hui heureux d'y vivre. Nous sommes ici au second stade de la lutte contre le taudis. Les occupants sont ici protégés par la loi de la réquisition. Ils sont ici sur ordre de la préfecture. À peine arrivés dans le jardin de ce vieux château délabré, on entendait leur bonheur. Écoutez ces cris d'enfants. Ce sont les jeunes habitants de ce château qui, pour la première fois de leur existence enfantine, ont enfin la place de jouer, de courir, de crier leur joie. À toutes les fenêtres, on voit la vie qui reprend ses droits. Des femmes nettoient les carreaux, accrochent des rideaux, lavent à grande eau les dalles, cirent les parquets, installent les lits. Enfin, un toit, même vieux, mais stable. D'où ils viennent ces relogés? Écoutez, prise entre 17 histoires du même ordre, celle de ce ménage.
Vous entendez peut-être un bruit étrange, c'est celui de la scie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un homme qui est en train de scier, c'est une femme. Je suis entrée dans l'appartement d'un ménage. Madame, une seconde, j'interromps votre travail. Je voudrais savoir comment vous êtes venue ici, comment vous viviez avant, comment vous vivez maintenant. D'abord, monsieur, vous travaillez?
Je travaille, madame.
Quel genre de travail?
Dans l'imprimerie.
Vous gagnez votre vie?
Oui, à peu près. Entre 45 et 50 000 francs par mois.
Vous avez un enfant?
Nous avons trois.
Trois enfants?
Trois enfants.
Alors, expliquez-moi comment vous viviez jusqu'ici, vous et votre femme. Vous, madame, dites-moi comment vous viviez dans les derniers temps.
Eh bien, nous avions vécu à l'hôtel la journée. On payait 500 à 650 francs par jour. Et alors, on ne mangeait presque pas. On mangeait un bâtard par jour, à nous deux. J'étais enceinte de 3 mois, comme on n'arrivait toujours pas à pouvoir payer tous les jours 500 et 600 francs. Eh bien, on allait coucher dans les bois.
Coucher dans les bois?
Oui, oui. Au bois de Meudon.
Le bois de Vincennes est d'ailleurs beaucoup, mais il fait moins froid.
Vous y êtes resté longtemps?
Non, de temps en temps, quand nous ne pouvions pas aller au hôtel.
Quand vous ne pouviez pas aller à l'hôtel.
C'est-à-dire, des fois, nous avions le choix entre manger et dormir. Voilà, il fallait choisir.
Comment est-ce que vous avez trouvé ceci?
Eh bien, nous en avions évidemment assez. Nous avons rencontré une amie qui était hébergée elle-même par l'abbé Pierre.
Qui travaillait avec moi.
Oui, qui travaillait avec ma femme. Et qui a bien voulu nous héberger dans sa chambre même pendant quelques jours.
Avec ma fille qui avait à ce moment-là 5 mois. Oui. Alors le président du comité de Montrouge nous a demandé si on avait quelque chose. Alors lui a dit que non. Et alors il nous a permis d'emménager dans la pièce d'à côté qui n'avait pas de cloison. Ça faisait comme un genre de couloir. Alors mon mari a fait une cloison et nous avons vécu là jusqu'à ce temps qu'on vienne ici.
Et maintenant?
Et maintenant, nous sommes très contents d'avoir trouvé ça. Et surtout contents qu'on va pouvoir récupérer les enfants.
Parce que vous avez été obligé de vous séparer des enfants.
Mais oui, on ne pouvait pas les faire suivre. À l'hôtel, on ne peut pas trimballer des enfants tous les trois jours avec des valises et changer d'hôtel comme ça. Sans
Alors, où avez-vous été obligé de mettre vos enfants?
Eh bien,
à l'assistance publique?
Non, il y en a deux qui sont chez des parents et une qui est en nourrice.
Ça vous revenait à combien?
Eh bien, ça nous revenait à 25 000 francs par mois.
Donc, sur les 15 000 francs pour la dernière et 5 000 francs pour chacun des autres.
Qui les a installés ici? Qui a installé tous ces occupants du château des Ternes? Eh bien, la SLAP, l'un des organismes les plus actifs de la région parisienne. La SLAP, l'aide aux...
Sans logis de l'agglomération parisienne.
Créée par qui?
Créée après l'appel de l'abbé Pierre en février 54. L'appel de l'abbé Pierre en février 54 avait suscité un mouvement, une vague, ce qu'on a appelé l'insurrection de bonté. Mais au bout de quelques mois, nous nous sommes retrouvés, quelques militants seulement, continuant à croire à la question logement. Nous avons donc créé un comité parisien qui s'est scindé très rapidement en différents comités sur les différents arrondissements de Paris.
C'est-à-dire qu'il y a un comité par arrondissement. Oui, ces comités sont composés de quels éléments?
Tout le monde est invité à participer à l'action du comité. Nous ne sommes marqués ni par une couleur politique, ni par une religion.
Vous êtes payé?
Absolument pas.
Tout est bénévole?
Tout est bénévole.
Mais les frais que représente tout de même votre action sont payés par quelqu'un?
Absolument pas.
Alors comment faites-vous? Parce que vous travaillez tous, vous êtes tous plus ou moins des travailleurs.
Nous sommes tous travailleurs.
Citez-moi un peu les composants, les éléments au point de vue profession de votre comité, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien de personnes dans un comité?
Il faut créer un comité avec un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier.
Bon, bah, dites-moi à peu près, ça me donnera une idée des autres comités.
Le président est employé service commercial chez Cadom Palmolive. Un vice-président est directeur d'une entreprise de transport, les transports MUT. Il y a un avocat. Le trésorier travaille dans une entreprise de construction.
Par conséquent, tout le monde est bénévole?
Tout le monde est bénévole.
Bon. Qu'obtenez-vous comme résultat pratique, concret et précis?
Il y a toute une action à faire justement sur l'opinion publique.
Est-ce que l'administration vous aide en ce moment ou au contraire vous met des bâtons dans les roues?
Non, actuellement, nous avons l'appui de l'administration, aussi bien la préfecture de police que la préfecture de la Seine.
Pas tout de même quand vous installez un squatter, si?
Non, les squatters ont eu pour but
d'attirer
l'attention.
Bon.
Maintenant,
Ce stade est dépassé.
Il
y a eu tout de même 1500 personnes logées grâce à des squattages, si je me trompe. Depuis combien de temps?
Depuis un an et demi.
Oui, c'est déjà quelque chose. C'est un début. Et maintenant, l'administration, quand par exemple, vous lui dénoncez des locaux vides, quel est le processus?
Justement, nous avons signalé actuellement 10 immeubles vides dans la région parisienne, sur Paris. Et nous avons demandé à bénéficier des réquisitions de ces immeubles-là. L'administration s'y emploie et je pense que nous obtiendrons les mêmes résultats que celui que nous avons obtenu pour le château des Ternes et à des réquisitions légales.
Maintenant, je voudrais des responsables. Les responsables du 11e?
11e, oui.
Monsieur?
Antoine Leger.
Votre métier, si ça ne vous ennuie pas?
Je suis ajusteur chez Eskitch.
Pourquoi êtes-vous devenu responsable d'un comité de Saint-Logis?
Depuis les événements de février 54, j'ai été remué et j'ai dit ça ne peut pas durer. Et j'ai appris à regarder autour de moi, j'ai vu tous les scandales enfin, dont les familles ont parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça que je me suis pris par la main et avec l'ensemble des comités, on a décidé de travailler pour leur...
Ça donne des résultats?
Oh oui, on pense que ça avance de plus en plus. À la SLAP, trois objectifs. Le dépannage immédiat, l'alimentation de tous les organismes de logement et ensuite une action sur le plan pour faire développer la construction. Or, même le dépannage s'est heurté à toute une juridiction, à des pouvoirs établis, qui nous ont montré que même pour dépanner des gens immédiatement, des affaires comme la réquisition, au fond, n'aboutissaient pas. Ce qui nous a amené à nous battre sur le plan législatif, et nous a amené à penser que, politiquement, il n'y avait pas une freine politique du logement ni de l'urgence. Sur le plan de la construction des logements, on a vu qu'il y avait beaucoup de discours et puis que finalement ça n'avançait pas. Alors c'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait s'attaquer au plan législatif pour qu'il y ait un effort valable de construction, c'est-à-dire, et qui en même temps, on a découvert que l'ensemble de l'effort de construction portait davantage pour des gens aisés plutôt que pour le peuple. Et la meilleure preuve, c'est que combien on a vu de fois des manœuvres, du fait qu'ils avaient 25 000 francs par mois, eh bien, on leur a fait comprendre aux HLM qu'ils ne pouvaient pas se loger.
Cité des Panoyaux,
cité de transit. Sur le mur blanc, un grand morceau de basalte noir, et dessus, voici ce qu'on lit. Cet immeuble a été édifié en 1955 par la ville de Paris pour permettre la destruction des taudis et l'aménagement progressif de l'îlot insalubre numéro 11. Gage d'un habitat meilleur, il est le premier élément d'une grande et belle œuvre de rénovation urbaine. Madame Baudouin, vous êtes la responsable de cet immeuble, si je ne me trompe?
Oui, je suis l'inspectrice du service départemental du logement, détachée pour faire la liaison entre les habitants et les services préfectoraux.
Vous resterez ici définitivement?
Oh, je ne crois pas. Je reprendrai mon bureau à l'inspection.
Combien de temps resteront ici les locataires?
Tout probablement de 15 à 18 mois, le temps nécessaire pour reconstruire les deux nouveaux immeubles qui doivent de nouveau leur servir de logement.
Ils payent combien prix minimum, prix maximum? De 3 à 8 000 francs, si je me trompe pas.
2 000 francs pour une chambre, 3 700 pour une pièce, cuisine, entrée, salle d'eau, 4 800 pour deux pièces et 7 800 pour quatre pièces, cuisine, salle d'eau, douche.
L'allocation au logement pourra couvrir ses frais dans quelle proportion?
Dans la proportion à peu près d'un tiers pour la plupart de nos familles allocataires.
Car presque toutes les familles qui sont installées ici ne pourront pas payer d'elles-mêmes de tels loyers.
Tous nos vieillards ne pourront pas s'ils ne sont pas aidés.
Vous avez combien de vieillards?
42 vieillards.
Combien de locataires en tout?
526 locataires.
Représentant à peu près une centaine d'enfants.
Oui, il y a plus de 100 et quelques enfants.
Voyons, une famille ici. Madame?
Madame Gombert.
Combien d'enfants?
2 enfants.
Où habitiez-vous avant?
26 impasse Touzé.
Quel confort aviez-vous?
Ni eau, ni gaz, ni électricité.
Combien de chambres?
Une pièce et une petite cuisine.
Vous viviez à 4?
Oui, madame.
Aujourd'hui, qu'avez-vous ici?
Aujourd'hui, j'ai 2 pièces, une entrée, une cuisine, un cabinet de toilette et un cabinet particulier.
Vous êtes heureuse?
Très contente.
Vous payez combien?
4 800.
Pensez-vous que vous pourrez les payer?
Nous ferons toujours un effort du moment qu'on a le confort et qu'on est bien logé.
Et votre mari travaille?
Oui, madame.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il est niqueleur dans la métallurgie.
Il gagne suffisamment sa vie?
Assez.
Voilà, une femme heureuse parmi tant d'autres. On va en voir une autre. Une chambre très claire, des vieux meubles et une vieille habitante. Quel âge, madame?
83 ans.
Il y a longtemps que vous viviez dans votre appartement?
Ça faisait 33 ans.
Vous n'en aviez jamais bougé?
Jamais, madame.
Ça n'a pas été trop pénible de vous déplacer?
Un petit peu quand même, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez?
Vous vous trouvez mieux?
Je me trouve bien, parce qu'il y a le chauffage central, il y a tout. Alors, je suis assez contente.
Vous ne pensez pas que vous payerez trop cher?
Oh non, je ne pense pas. Je pense y arriver.
Oui. Qu'est-ce que vous avez pour vivre? L'allocation des vieux salariés?
Oui, et puis une pension de mon doigt. J'ai une pension de travail.
D'accident de travail. Alors, dans l'ensemble, heureuse du changement?
Oui, heureuse, oui.
Avec une petite réserve.
Faut se canter.
Oui, avec la petite réserve quand on a perdu le paysage de 30 ans.
Oui.
C'est ça. Merci, madame. Alors, en entendant, voyant tout cela, peut-on dire que l'insurrection de bonté, comme on l'a appelée, de l'abbé Pierre, a été sans lendemain? Eh bien, je crois qu'il faut avoir le courage de répondre à la fois oui et non. Oui, parce que le côté charitable du mouvement a été, il faut bien le dire, un feu de paille. Les gens, riches et pauvres, qui avaient chaud, qui avaient un toit, ont donné beaucoup et très vite pour ceux qui avaient froid et qui couchaient dehors. Et puis, mon Dieu, en voyant que les gens qui avaient froid et n'avaient pas de toit se chiffraient par centaines de milliers, les gens ont refermé leur porte-monnaie et ont dit « Après tout, ça n'est pas nous que ça regarde, c'est à l'État d'agir. » Et au fond, ils avaient parfaitement raison. Ce retour à l'égoïsme naturel de l'individu a été une réaction pénible quant à ses possibles conséquences, mais saine. Ça, c'est le côté négatif de la campagne même menée par l'abbé Pierre. Et le côté positif, existe-t-il? Oui. L'abbé Pierre a été, comme il le dit lui-même, la puce qui gêne le lion et le fait tressaillir. Grâce aux cités d'urgence construites par l'abbé Pierre, on a construit des logements très rapidement et en plus grand nombre. Parce que l'abbé Pierre dénonçait concrètement certains abus, on s'est décidé à essayer de les réprimer. Parce que l'abbé Pierre a installé des tentes sur les berges de la Seine pour loger quelques centaines de sans-abri, on s'est préoccupé enfin en haut lieu de donner un toit, même précaire, à ses familles. Parce que l'abbé Pierre a encouragé des squatters
à occuper des locaux souvent scandaleusement vides, les services ont d'eux-mêmes procédé à la réquisition des immeubles vacants et habitables. Disons, si vous voulez, pour conclure, que l'abbé Pierre a provoqué une prise de conscience des sans-logis, des ayants droit et des pouvoirs publics. Ça n'est déjà pas si mal que ça.
Dans la série « Documents », la radiodiffusion télévision française vous a présenté « Un toit pour tout le monde », une émission de Clara Candiani.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 14 novembre 1955.